Ok. Merci Seigneur. Bon, il est tard là. On va bientôt manger là, non? Oh, enfin, on laisse la place à la parole de Dieu. Amen. Ah, mais Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ces moments, te remettre la grâce que tu nous fais, Seigneur. Non seulement, Seigneur, de lire la parole, mais aussi de l'écouter, mais aussi, Seigneur, de méditer là-dessus. Et Seigneur, nous réjouir de la nourriture céleste que tu nous donnes au travers de ça, Seigneur. Je remets, Seigneur, nos cœurs, qu'ils soient ouverts, Seigneur, qu'ils soient disposés, Seigneur, à te laisser parler, Seigneur, dans nos vies. C'est pas juste une affaire de message ou de prédication, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et je veux vraiment t'inviter, Seigneur, à prendre place, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Dans ces moments, Seigneur, que tu parles, Seigneur, à nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Alors, ça va? Alléluia. Passez un bon moment de louange, un bon moment d'annonce, un bon moment aussi dans la parole. Parce que je voulais vous partager sur un sujet... c'est comme toujours, des fois il y a des sujets un petit peu simples, on se dit c'est évident, et en même temps c'est peut-être un petit peu plus profond que ça. La dernière fois j'ai eu l'occasion de vous partager sur qu'est-ce que c'est que l'évangile, et aussi on a parlé un peu plus loin des commencements que Dieu fait, de comment est-ce que Dieu commence des choses dans nos vies. Et donc quand on a parlé de l'évangile, on a dit combien Dieu a fait l'homme à son image et il veut rétablir cette image en nous. Et son œuvre part de l'intérieur, il fait quelque chose qui est profond en nous, pour ensuite aussi transformer notre extérieur, pour ensuite transformer qui nous sommes extérieurement. Mais ça, il ne le fait pas sans que nous soyons d'accord. Il ne le fait pas sans qu'à un moment donné, on lui dise « Ok, je veux bien que tu fasses cette œuvre en nous, en moi, je veux bien que tu travailles dans ma vie ». Et ça, je crois que dans la vie d'un croyant, il y a un moment particulier où on choisit de cheminer avec Dieu, où on choisit de marcher avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. Le moment de la conversion. Alors quand on dit la conversion, si on parle à des gens, ouais, est-ce que t'es converti ? Quelqu'un du monde va dire, attends, tu sais quoi ? C'est l'Inquisition ? C'est quoi ? C'est les croisades ? Il va me convertir de force. En général, on va pas parler comme ça, d'accord? Mais en même temps, entre nous, on parle de la conversion. Depuis combien de temps est-ce que tu es converti? Depuis combien de temps tu connais le Seigneur? Et ça, c'est du vocabulaire qu'on a, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qu'est-ce que le fait de parler, quand on parle de conversion, qu'est-ce que ça signifie déjà pour nous? Alors, c'est un moment particulier dans notre vie où on a vu, on a vu une grande lumière. On a vu quelque chose d'extraordinaire se passer, Dieu a touché notre cœur, Dieu a fait quelque chose en particulier, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, et finalement, qu'est-ce que ça signifie vraiment de parler, quand on parle de la conversion, au niveau biblique du terme? Parce que moi je parle de la Bible, d'accord? Donc on a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la conversion, sur le fait que oui, il y a un jour, je me souviens très précisément, et encore que... Quand on parle de la conversion, moi, quand j'ai posé la question à des gens, est-ce que depuis combien de temps vous êtes convertis, il y en a qui me diront, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis depuis tout petit dans l'église, j'ai grandi comme ça, un jour, oui, j'ai accepté Jésus, mais en fait, vraiment, je ne suis pas certain de ça. Et il y a quelqu'un qui disait un jour que la conversion, c'est un petit peu quand on prend le train. Donc si on imagine, on fait, un Paris-Berlin, d'accord ? On prend le train, on se déplace, mais à quel moment est-ce qu'on passe la frontière? Ça dépend. Est-ce qu'on est éveillé ou est-ce qu'on n'est pas éveillé? Est-ce qu'on a vu vraiment le panneau passer ou à un autre moment? Toujours est-il qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est passé de l'autre côté, qu'on a traversé cette frontière-là. Et c'est en général ce qu'on appelle la conversion. Alors en hébreu, le terme qu'on va utiliser pour parler de la conversion, c'est le terme shuv. C'est le terme qui veut dire tourner, se retourner, revenir. Et ça, on le retrouve souvent dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. On retrouve souvent dans des textes où Dieu dit « Revenez à moi. Revenez à moi. » Et quand on parle de revenir, en fait, c'est ce qu'on parle de. Là, on est en train de parler d'hommes, de femmes qui se convertissent. C'est le fait de se retourner. On a comme ça des passages dans le Deutéronome, par exemple, au chapitre 30, verset 2. « Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, alors, etc., etc., etc. » Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu. Jérémie 3, 12. Reviens, infidèle. Infidèle. D'accord ? Reconnais que tu as été infidèle. Revenez, enfant rebelle, et alors je pardonnerai vos infidélités. Et dans Joël, chapitre 2, verset 12. Alors je vais le prendre celui-là, tiens. Joël, chapitre 2, verset 12. Ça va ? On est allé direct, hein ? Ça fait atterrir un peu. Joël chapitre 2 verset 12 et le verset 13 aussi, tiens. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Et ça, c'est comme ça dans plus de 120 fois dans l'Ancien Testament. Alors bien sûr, je ne parle pas des moments où ils étaient en train de marcher, ils se retournèrent, non, c'est pas ça. Hein. Là, il peut y en avoir bien plus. Mais je parle de ces moments où Dieu appelle son peuple. Alors que son peuple est en train de marcher d'une manière particulière, il est en train de pécher contre Dieu et il est dans une infidélité. Et Dieu compare à son peuple à une prostituée. Une prostituée qui est souvent allée voir ailleurs, qui s'est tournée vers d'autres dieux que lui, qui a cherché d'autres solutions ou des solutions ailleurs qu'en lui. À ce moment-là, Dieu dit « Revenez à moi ». Revenez à moi, retournez vers moi, revenez à moi et je vous ferai connaître ma bonté. Dieu fait connaître à son peuple son infidélité et il lui demande de revenir et il est prêt à pardonner, à effacer et à oublier. On connaît cette histoire de Jonas et dans l'histoire de Jonas c'est intéressant parce qu'on voit l'histoire de l'homme et l'histoire de Dieu. On voit cette histoire de l'homme qui, lui, il veut pas aller annoncer que Dieu a à un peuple de se repentir, donc au peuple de Ninive, à la ville de Ninive. Allez, repentez-vous, il veut pas le faire. Et il décide de partir dans une autre ville. Et Dieu conduit toutes les choses pour amener Jonas, alors on va passer, hein, qu'on ait l'histoire du poisson, etc., pour amener Jonas à donner cette simple parole, repentez-vous. Repentez-vous. Jonas, lui, pour lui, c'est déjà mort. C'est déjà fini. Il va annoncer ça. De toute manière, les gens ne vont pas se repentir. Mais Dieu l'amène à le faire. Dieu l'amène à aller dans cette ville pour juste une seule chose, annoncer à ce peuple, repentez-vous. Revenez à moi. Vous êtes partis loin, vous êtes allés loin, revenez à moi. Et que fait le peuple ? Il se repent. Il revient vers Dieu. Et Jonas est complètement décontenancé parce que lui, il aurait préféré à la limite qu'il reste dans leur péché. Il aurait préféré à la limite qu'il reste comme ça et que, il se soit pas. Mais Dieu connaissait le peuple, Dieu connaissait son peuple. Et lorsque Dieu annonce quelque chose, ce peuple-là a réagi et il a retourné, il a fait volte-face, il s'est tourné et il s'est approché de Dieu. Dieu n'abandonne pas, mais c'est son peuple qui l'abandonne. Son peuple qui l'abandonne par ses désirs, par tout un tas de choses. Par son infidélité, le peuple se détourne de Dieu, d'accord ? Pour se tourner vers des fables, vers des idoles, vers tout un tas d'autres choses. Mais Dieu, lui, n'abandonne pas. Lui, Dieu persévère, le Seigneur persévère, et il continue à dire « Reviens à moi ». Quand bien même son peuple est qualifié de prostituée, le terme est fort, de prostituée, c'est-à-dire qu'il est allé voir d'autres « femmes », entre guillemets, il s'est associé à d'autres choses que Dieu, il a trompé Dieu, Dieu lui dit « Reviens à moi, reviens à moi et je te pardonnerai ». Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de la conversion, c'est un mot particulier, bon, je vais pas le, qui signifie aussi donc se tourner, retourner, changer de route. Et souvent, bien sûr, ben, c'est toujours pareil, c'est un mot qui est employé de manière littérale, Jésus se retourna, ok. Mais il y a aussi les passages dans lesquels il est employé de manière plus spirituelle, plus théologique, notamment dans le livre des Actes, Actes 15, verset 19, il est dit « Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Le terme ici, c'est pour dire qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils vont vers Dieu. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. » Lorsque les cœurs se tournent vers Dieu, le voile est ôté. Tout à l'heure, on a parlé de Marie, pendant la louange, on a cité Marie, et moi c'est vrai que je parle souvent de Marie, Marthe et Marie, Marthe qui court de partout, et Marie qui est devant Jésus. Mais d'une certaine manière, ce que Marie a fait, c'est qu'elle s'est tournée vers Jésus. Elle était en face de Jésus, elle était devant Jésus. Elle le regardait, elle écoutait, elle était attentive à ce qu'il disait. Et en ce sens, elle s'est tournée vers Jésus. Il y a quand même une situation particulière dans le Nouveau Testament. C'est que les disciples, eux, sont dans la pensée de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand il s'agit de se tourner vers Dieu, c'est plutôt la conversion, c'est un retour à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en est des païens? Les païens, eux, ne connaissent pas Dieu. Et il faut voir une chose, c'est que le terme se convertir, déjà, ça s'adresse aux Juifs. Pour l'Ancien Testament, dans la pensée de l'Ancien Testament, revenir vers Dieu parle de personnes qui ont appartenu à Dieu et qui sont parties et qui sont revenues. L'enfant prodigue, hein, qui est parti de son père et qui est revenu vers son père, etc. Et on peut comprendre un peu plus aisément pourquoi les Juifs avaient du mal à penser que l'Évangile pouvait être pour des non-Juifs. Parce que dans la pensée de l'Ancien Testament, le fait de revenir à Dieu, c'était le fait déjà d'appartenir à Dieu. C'était le fait d'appartenir à un peuple élu. Et lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament combien, au début, ils ont du mal parce qu'il y a des gens qui se convertissent, mais ce sont des païens. Ce sont des gens qui sont pas du peuple de Dieu. Ce sont des gens qui... Comment est-ce qu'ils peuvent se convertir? Comment est-ce qu'ils peuvent revenir vers Dieu? Et dans le sens du Nouveau Testament, c'est non seulement le fait de revenir, au Seigneur, de revenir à Dieu, mais c'est carrément et radicalement le fait de changer de Seigneur. Changer de Seigneur. Et ça pose la question qu'on peut avoir dans notre vie lorsque Christ parle à son peuple et qui lui dit « Mais choisis ton Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer l'un et l'autre. Choisis ton Dieu. Choisis. » Et ça, le choix, c'est ce qu'il nous a donné. Il a donné le choix à chacun d'entre nous et au cœur même de la conversion, il y a la capacité, la faculté de choisir. Des fois, on pourrait se dire, effectivement, Dieu nous choisit en premier. Mais il nous demande, à un moment donné ou à un autre, de choisir. Et ce n'est pas que au moment qu'on appelle la conversion dans nos vies chrétiennes. C'est plusieurs fois dans notre vie chrétienne, à plusieurs moments, de manière régulière, Dieu nous appelle à choisir dans notre vie, à faire le bon choix entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui convient et ce qui ne convient pas à Dieu. Ça, c'est un choix qu'il nous donne. Donc, quand on parle de la conversion et qu'on parle de changer de Seigneur, quand on parle de revenir au Seigneur, ce n'est pas uniquement le fait, à un moment donné, j'ai changé de Seigneur, c'est uniquement ce qui nous interroge aussi, c'est qu'est-ce qui est susceptible aujourd'hui même dans ma vie de prendre la place de Dieu? Qu'est-ce qui est susceptible parmi mes intérêts, parmi mes passions, parmi tout ce que je connais autour de moi, qu'est-ce qui est susceptible d'une manière ou d'une autre de prendre la place de Dieu? De capter le moment dans lequel je peux me trouver avec Dieu? Qu'est-ce qui est susceptible de me tirer de ce moment où je suis à l'écoute de Dieu à ce moment où je m'occupe de tellement de choses que Dieu est dans un coin, que je laisse le Seigneur dans un coin, parler dans son coin, à m'affairer à une chose et à une autre? Donc le terme de se convertir ne concerne pas uniquement un moment dans ma vie. Le fait de revenir à Dieu Lorsqu'on parle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est pas qu'une fois que Dieu a demandé à son peuple de revenir à lui. C'est plusieurs fois. Il n'a de cesse de rappeler, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Et c'est un choc dans la pensée du Nouveau Testament, c'est un choc pour les disciples de Christ, d'arriver à comprendre que l'Évangile ne leur est pas destiné que à eux, que l'Évangile n'est pas destiné que aux Juifs, mais qu'il s'adresse à bien plus. Lorsqu'il voit que Philippe est allé annoncer l'Évangile dans d'autres contrées et que les gens sont baptisés du Saint-Esprit, mais comment est-ce qu'on peut leur refuser le baptême, quoi ? Dieu les a visités. Mais c'est un choc, parce que ce n'était pas ce qu'il y avait dans la pensée. C'est pas ce qu'il y avait dans la pensée de l'Ancien Testament. Pourtant, Jésus avait parlé et avait annoncé que cette bonne nouvelle sera annoncée en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ce moment-là, ils ne comprenaient pas. La Judée, la Samarie, leur ennemi, les extrémités de la terre, on n'en parle pas, c'est carrément le bout du monde, quoi. Au sens strict du terme, enfin, extrémité. Donc avant tout, qu'est-ce qui définit finalement la conversion au sens biblique du terme ? C'est pas ce qui se fait uniquement dans le cœur, c'est un changement de comportement. Le fait de revenir, le fait de se tourner vers Dieu, le fait de ne plus être dirigé dans cette direction, vers cette direction, mais d'être dirigé vers Dieu. Donc c'est un changement de direction, c'est un changement d'action. C'est une œuvre extérieure d'abord. Le fait de changer de direction. Et il y a pourtant un autre mot qui va constamment de pair avec le terme conversion, c'est la repentance. La repentance, la métanoïa, qui veut dire penser après, penser autrement. Changer de manière de voir et d'avis. Et dans un certain sens, regretter. Changer la manière de voir, changer la manière de voir les choses, penser autrement. Ça, c'est la repentance qui va de pair avec la conversion, d'accord ? Mais la conversion commence déjà par le fait de changer de direction. Et la différence donc entre les deux, si je résume juste ce point-là, c'est que la conversion, donc, c'est un changement extérieur, c'est un changement de comportement, et la repentance, c'est un changement intérieur, un changement de pensée et de mentalité. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Mais pensez-y un peu des fois, on parle de la conversion, un jour je me suis converti. Mais gardons à l'esprit que régulièrement, dans notre vie, nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de faire un petit check-up de nos vies, de faire un petit point sur nos vies et de se dire là, ça ne va pas. J'ai besoin de me retourner, de retourner dans les bras de Dieu, de retourner vers Dieu. C'est ce qu'on trouve dans le témoignage aussi de Jean-Baptiste. Et donc je vais parler un petit peu plus de Jean-Baptiste et de ce qu'il a fait. Vous connaissez Jean-Baptiste ? Ça va ? Jean-Baptiste, donc, qui a précédé Jésus-Christ, mais en même temps c'était son cousin, n'est-ce pas ? Et donc qui a prêché sur les bords du Jourdain, qui a prêché à grands cris face à des foules. Et qui a prêché quoi ? La repentance, qui a prêché le baptême. Et le baptême particulièrement dans l'eau. Alors on va voir ces passages-là et je vais prendre le livre de Matthieu déjà, au chapitre 3. Matthieu chapitre 3 et à partir du verset... Oui. À partir du verset 7, on va dire. Parce que le fait que Jean était avec des vêtements de poils de chameau, ça va, on va le laisser. Au verset 7, donc Matthieu chapitre 3, verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je vais m'arrêter là. Donc Jean-Baptiste parle de quelque chose en particulier. Il dit, il parle du fruit digne de la repentance. Dans d'autres versions, il est dit le fruit qui confirme votre changement d'attitude. Le fruit qui confirme votre... Ça, c'est dans la seconde 21 aussi. Fruit qui confirme votre changement d'attitude. Le fait que notre manière de faire les choses n'est plus la même. Notre manière d'agir sur ce qui nous entoure n'est plus la même. Notre comportement a changé. Notre comportement se fait différemment. Il dit encore, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et dans notre version, c'est aussi dit, en vue de la repentance. Et comme il faut le comprendre, c'est que celui qui amène la repentance, c'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, lorsqu'il est dit dans la Bible, dans le livre de Jean, qu'il préparait le chemin du Seigneur. Qui dis-tu que tu es ? Enfin, que dis-tu de toi ? Lorsque les pharisiens lui disent, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez, aplanissez le chemin du Seigneur. Ça, c'était la mission de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste, c'était de préparer la venue de Jésus. De quelle manière ? De quelle manière ? Par un baptême d'eau. Et ce baptême d'eau, avec quelle teneur ? Est-ce qu'elle était censée changer les cœurs ? Non. Jean-Baptiste, lorsqu'il appelle les gens à la repentance, lorsqu'il appelle, il dit pour vous amener à la repentance, les conseils qu'il leur donne, ce ne sont pas des conseils de cœur. Et on va prendre le passage dans le livre de Luc qui fait référence aussi à ça. Luc au chapitre 3 aussi. Luc chapitre 3 et verset 7 aussi, tiens, c'est bien. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est comme dans les livres de Matthieu, c'est bien, c'est rassurant. D'ailleurs, c'est bien de pouvoir lire les parallèles, d'accord ? Quand on lit un passage, c'est bien de lire d'autres passages pour être sûr qu'on comprend bien. Donc, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la suite. La foule l'interrogeait, disant, mais que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Et Jean-Baptiste leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent, maître, mais que devons-nous faire ? Et il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vin dans la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit Jean-Baptiste répondre aux questions des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et il y a pas, de la même manière, il y a des gens qui sont venus voir Jésus pour dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et là, les gens viennent voir Jean-Baptiste, disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Jean-Baptiste, notez bien, leur donne que des conseils pratiques. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Lorsqu'on pose la question à Jésus « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, écoute, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Et quand Jésus dit ça, il ne s'adresse pas à « voilà, tu fais une fois, tu fais deux fois, tu fais trois fois ». À plusieurs reprises, les disciples lui parlent et lui, il va dire « mais tu pardonneras 7 fois, 70 fois ». En gros, c'est « tu comptes même pas ». Parce que Jésus s'adresse, lui, à quelque chose de plus profond que juste le faire. Il s'adresse à l'être. Il s'adresse à l'être. Et lorsqu'il parle à ses disciples, qui dit, et que ses disciples lui disent, il demande à ses disciples de lui dire « mais que dit-on de moi ?»« Oh, mais on dit que tu es un prophète, on dit que tu es ci, on dit que tu es là. » D'accord ?« Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis ? Et les gens parlent de Jésus, c'est un prophète, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il réalise, par rapport à ce qu'il accomplit. Certains vont dire « tu es un prophète », d'autres vont dire « tu es Élie », d'autres vont dire tout un tas de choses. Par rapport à ce qu'il fait, les gens vont le définir. Mais Jésus leur demande « qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis ? Et lorsqu'on pose la question à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste répond de la même, il ne répond pas de la manière « voilà qui tu dois être, voilà ce que tu dois faire ». Parce que c'est l'objectif, l'œuvre du baptême d'eau, c'est un changement déjà d'attitude. Lorsque Jean-Baptiste venait et qu'il demandait aux gens de se faire baptiser, et qu'il appelait les gens à se faire baptiser, il leur demandait déjà de changer d'attitude. Pas parce que cette œuvre devait en rester là, mais parce qu'il préparait l'œuvre de Christ qui était d'amener les gens à la repentance, d'amener les gens à changer de mentalité. Jean-Baptiste prêche la conversion dans un sens de retour à Dieu et donc dans ce sens de changer de comportement. Et il préparait les gens à être simplement disposés à entendre le message de Jésus-Christ. Et des fois, on peut se trouver dans ces situations-là, dans lesquelles on peut demander à Dieu, « Seigneur, mais change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, change ma vie, Seigneur, change ce que je dois faire. » Il faudrait peut-être déjà amener sa pensée à se demander, « Qu'est-ce que je dois changer, moi, déjà, dans ma vie ? Quelle est l'habitude que j'ai prise et qui m'amène dans une autre direction que celle de Dieu. Qu'est-ce qui m'amène à penser autrement qu'à penser devant Christ, qu'à avoir la pensée de Christ. Et je pense que c'est important dans la vie chrétienne parce que souvent, on peut être là à se plaindre devant Dieu, Seigneur, change mon cœur. Je sais que je ne suis pas bien, je sais que je suis mauvais, change mon cœur, change ma vie. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ça ? Qu'est-ce que nous mettons en place pour que notre comportement, notre vie, elle, soit changée ? Et bien sûr, Dieu veut changer notre cœur, de sorte que l'ensemble de notre être puisse être changé, que toute notre vie puisse être changée. Mais quelle est, nous, notre détermination à changer ? Quelle est, nous, notre volonté ? De quelle manière notre volonté est mise en marche pour dire « je veux changer et je ne veux pas rester là où je suis ». Je veux que les choses soient différentes dans ma vie. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la repentance, du pardon, de la réconciliation. Et lorsqu'on voit dans la Bible, lorsque Jésus envoie ses disciples pour prêcher dans les différentes villes, pour annoncer la bonne nouvelle, ils prêchèrent quoi ? La Bible nous dit, alors ça c'est dans Marc 6, 12, éventuellement, si vous voulez le lire, la Bible nous dit qu'ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils ont prêché la repentance. La conversion, c'est un changement de comportement. Mais si on change juste le comportement, bien sûr, ça ne tient pas. Il faut aussi un renouvellement de l'esprit, un renouvellement, comme il dit dans la Bible, de l'intelligence, de l'entendement. Mais entre les deux, il y a ce point de rencontre. Il y a ce point de rencontre entre Dieu et l'homme, Dieu et nous, Dieu et les hommes. Lorsque Dieu s'approche, Dieu est toujours, se tient au croisement. Il se tient au croisement où il dit « Où es-tu ? » Je suis là, moi. Je suis là, mais toi, tu es où ? Et dans cette question-là, la détermination de l'homme, notre détermination doit se mettre en action pour dire « je reviens vers mon Dieu, je me retourne vers mon Dieu. Je reviens au point de rencontre. Et dans ce point de rencontre, Dieu change ma vie et change mon cœur. On voudrait que Dieu fasse tout le travail dans nos vies. Et Dieu fait déjà beaucoup. Je crois que peut-être 99% du travail, c'est lui qui le fait. Mais il tient compte de nos choix et de notre détermination. Il tient compte de ce que nous, nous sommes prêts à mettre en place pour nous retourner et nous rapprocher de Dieu sans cesse et toujours. Ce choix-là, c'est le choix qui nous est donné. Parce que nous ne sommes pas des pantins, parce que nous ne sommes pas des hommes, des femmes qui sont manipulés par Dieu. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu voit les choses. Mais il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Tu as le choix qui est devant toi. Tu as le choix qui se fait. Tu peux faire ce choix-là. Tu peux le faire, il faut seulement que tu sois déterminé. Fais ce choix-là, fais cette marche-là, fais ce pas-là, et moi je fais le reste. Et moi je fais le reste. Mais des fois on voudrait que nous, Seigneur, fais toute chose. Moi je ne sais pas, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Dieu s'adresse à nous, pas en tant que pantin, en tant que des hommes et des femmes qu'il a rendus responsables. Lorsque nous sommes venus à Christ, avant, nous ne connaissions pas le péché. Nous agissions peut-être d'une manière ou d'une autre. Peut-être d'autres qui sont nés dans l'Église, ça va, ce n'est pas la catastrophe. Peut-être d'autres, c'est la catastrophe. C'était la catastrophe avant. Mais Dieu, lui, nous laisse ce terrain, attend sur ce terrain dans lequel on vient vers lui et on baisse les bras et on dit, Seigneur, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Je reconnais que j'ai été fautif là-dedans. Je reconnais. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on voudrait ne rien avoir à se reprocher. Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais je ne connais pas la repentance. Je ne connais pas la repentance. Je suis venu vers Dieu, mais je ne connais pas la repentance. Dans ma vie de foi, dans ma vie de chrétien, où se trouve la repentance? À aucun moment, je suis parfait. Je n'ai rien commis, je n'ai rien fait de mal. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes, savoir revenir à Dieu avec un esprit bien disposé pour le voir agir dans notre cœur, pour le laisser travailler et pour s'attendre à lui. L'œuvre de Christ, c'est celle qui consiste à déjà s'attendre à ce que nous fassions un pas et lui fait le reste. Dans Jean 3, il est dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc je ne vais pas tout faire l'explication du passage, mais je trouve ça assez étonnant de parler si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Et lorsque Jean-Baptiste parlait, il pratiquait le baptême d'eau. Et il disait, voici celui qui va venir, il va vous baptiser de feu et d'esprit, d'esprit saint et de feu. Le baptême ne fait pas tout. C'est pas parce que je suis baptisé que ça y est, dans ma vie, ok, j'ai plus besoin de dire je reviens vers toi. Non. Dans notre vie est jalonnée de ces moments qui sont à chaque fois, et comme j'ai pu en parler, des petits commencements, des recommencements dans lesquels on revient vers Dieu parce qu'on sait regarder notre vie, parce qu'on a le sens et la responsabilité que l'on connaît. Et c'est ça qui est fort, c'est que quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne la vie, de personnes, d'hommes et de femmes qui n'étions quasiment pas responsables de leur vie, Dieu nous donne de voir ce qui ne va pas, de sorte que nous soyons responsables de nos vies, de sorte que nous sachions faire des choix, faire les bons choix, de sorte que nous sachions éventuellement, de la manière la plus joyeuse qui soit, choisir Christ. Choisir Christ pour la vie. Mais à un moment donné, on choisit Christ et notre cœur se laisse transformer par lui. Mais lorsque notre vie se détourne, et honnêtement, soyons honnêtes, dans la vie chrétienne, des fois, on peut voir notre vie qui s'écarte du chemin. On voit notre vie qui s'écarte du chemin, notre comportement qui n'est pas le même. Et on a besoin de changer de comportement déjà, pour revenir à Christ, de se reconvertir en quelque sorte, de se reconvertir pour le laisser agir. Dieu respecte nos choix, mais il se trouve parfois à la croisée des chemins. Il se trouve à la croisée des chemins en attendant qu'on puisse venir. Comme Adam, où es-tu? Amen. Donc c'est important de réaliser que Notre vie chrétienne, c'est pas juste à un moment donné, ok, j'ai donné ma vie à Dieu. Et on parle de ça, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il dans ma vie aujourd'hui? Et parfois, on se rend compte des années après qu'on marche, mais le feu, entre guillemets, le feu sacré, d'accord? Et c'est éteint. Ouh, et moins fort. Et on a besoin de revenir à Christ. On a besoin de le laisser travailler. On a besoin de faire taire toutes ces voix qui sont autour de nous, qui voudraient nous manger du temps, qui voudraient nous manger le temps et la connaissance qu'on peut avoir de la personne de Christ, de la personne de Dieu. Parce que lui est allé jusqu'à la croix, il est allé jusqu'au bout, et il ne s'est pas arrêté en chemin, même si la tentation était là. Mais quand la tentation était là, à quoi est-ce que Christ s'est accroché? Il s'est accroché au Père. Il s'est accroché à Dieu. Et a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Combien de fois dans nos vies, c'est ma volonté, c'est notre volonté qui s'accomplit? Je vous parle à vous, je me parle aussi à moi. Je ne suis pas exempt de ça. C'est facile de parler, des fois on dit. Mais je me parle aussi à moi. Parce que combien de fois, c'est plus ma volonté peut-être qui s'est accomplie que celle de Dieu. Pourquoi ça? Des fois, on a peur de la volonté de Dieu. On a peur de ce que Dieu voudrait. On a peur des décisions que Dieu pourrait prendre dans notre vie, alors que lui connaît tout. Alors que lui connaît toutes choses. Et moi, je me rends compte, hein, je suis aussi comme vous, hein, je me rends compte que des fois, quand je réfléchis, je me dis, non, mais j'aimerais vraiment faire ça. Et quelque part, je sens que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Quelque part, je sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais choisir de céder en face de Dieu, entre guillemets, d'accord? Qu'est-ce qui me fait peur? Si je suis à Dieu, si je marche avec Dieu, si je laisse Dieu agir, mais qu'est-ce qui me fait peur? Dieu sait ce qui est bien pour moi. Dieu sait ce qui est bien pour nous. Et si notre vie, nous la laissons entre les mains de Dieu, si nous revenons pleinement à Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs et certains que lui prendra soin de notre vie. Nous pouvons être sûrs et certains que lui saura ce qu'il convient. Parce que des fois, nos désirs nous trompent et la Bible parle de ces temps, vous savez, dans 2 Timothée, je vais lire le passage, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3-4. Et je pense que c'est, je ne veux pas être dramatique, mais je pense que dans notre siècle, c'est assez présent. Le fait de vouloir faire ce que l'on veut, de vouloir d'aimer faire ce qui plaît à notre cœur. Et dans la Bible, il dit, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 3 et 4, il dit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, d'entendre des choses qui leur plaisent, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. D'accord? Je ne veux pas être catastrophique, je ne veux pas être alarmiste ou autre chose, mais moi je reconnais que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui cherchent à capter mon attention. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à capter notre volonté, nos désirs, et qu'au plus ça va, on a des désirs qui sont de plus en plus grands par rapport à d'autres choses que Dieu, par rapport à d'autres priorités que Dieu. Notre volonté se laisse conduire vers d'autres voies que Dieu et se laisse détourne l'oreille de la vérité, de celui qui est la vérité, Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a été jusqu'au bout, qui est mort et ressuscité par amour pour nous, parce que personne d'autre ne pouvait le faire, parce que autrement nous serions restés uniquement dans ce sens de conversion qui dit « tu reviens à Dieu, mais où est ton cœur ?» Il a été jusqu'au bout pour que nos cœurs soient changés. Il a été jusqu'au bout pour que nos vies soient transformées, pour que de cette conversion juste de comportement, nous soyons accompagnés dans la repentance pour que nos cœurs soient changés. Et que ce ne soit plus la loi qui dicte nos voies, soit plus fais ceci ou fais cela, mais que cette loi habite dans nos cœurs. Que cette loi habite au plus profond de nous. de sorte que notre vie se tourne vers Christ. Notre vie se tourne vers Dieu, qui est la source de toute joie, qui est la source de toute délivrance, qui est la source de toute abondance. L'abondance de vie, l'abondance de joie se trouve en lui. Dieu se tient à la croisée des chemins, disant « Où es-tu ?» Notre rôle, c'est déjà de revenir à Dieu. Et ensuite, de regarder, de l'observer, de se laisser conduire, de se laisser vivre par lui et de le laisser travailler dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Et ce, quelles que soient nos années de conversion, quelles que soient depuis combien de temps on est chrétien ou pas chrétien, qu'on vienne d'arriver depuis quelque temps ou qu'on soit depuis 20 ans dans la foi, cette question se pose toujours à nous. Où es-tu lorsque nous sommes loin, lorsque notre regard s'est écarté de la vérité de Dieu. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que nos vies soient transformées, mais que notre décision, que notre détermination, Seigneur, soit certaine, que nos choix soient certains, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, marquer, Seigneur, les temps où nous nous tournons vers toi, où nous venons pleinement vers toi. Nous ne nous laissons pas, Seigneur, accaparer par tous les délices du monde, par toutes les joies que pourrait nous procurer, entre guillemets, ce monde, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, pleinement, Seigneur, nous tourner vers toi. Faire cette œuvre, Seigneur, de chemin, Seigneur, ce cheminement, Seigneur, où nous marchons à ta suite. Et lorsque tu as parlé, lorsque quelqu'un voulait venir, et lorsque quelqu'un avait ce cœur disposé, Seigneur, pour toi, toi tu lui disais, viens et suis-moi. Ce n'était pas reste à ta place et puis je vais faire quelque chose, c'était viens et suis-moi. Marche à ma suite. Seigneur, que nous puissions marcher à ta suite. Seigneur, que nous ayons un cœur disposé, Seigneur, à entendre, Seigneur, de toi la vérité sur nos vies. Des fois, la vérité de ta parole, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous laissons, Seigneur, interpeller, Seigneur, par ta parole, des fois ça peut faire mal. Mais Seigneur, c'est de cette manière, Seigneur, que nous pouvons revenir vers toi. De cette manière que nous pouvons, Seigneur, laisser de côté ces choses qui voudraient s'agripper à nos vies pour, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Seigneur, nous ne voulons pas être dupes. Le diable, lui, voudrait qu'on soit attaché à d'autres choses que toi. Mais, Seigneur, nous voulons nous détacher comme l'oiseau cherche à se détacher du filet de l'oiseleur, Seigneur, pour venir pleinement vers toi, pour se tourner, Seigneur, vers toi, pour revenir, Seigneur, au point de croisement où nous faisons face à ta personne, où nous te voyons face à face. Nous laissons, Seigneur, emporter par la pensée de Christ, par le Saint-Esprit. Nous nous laissons interpeller par toi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, conduise et dirige nos vies, Seigneur, dans la repentance, dans le devenir, Seigneur, en toi, de sorte que nous nous disions, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur, pour la grâce qui accompagne ta parole lorsque tu nous parles, lorsque tu investis nos vies, lorsque tu changes nos vies, lorsque tu transformes toutes choses. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être vraiment déterminés pour ton royaume, pour la foi, Seigneur, pour la promesse qui est en toi. Au nom de Jésus. Amen.